On vient d'entendre un bruit un peu particulier. Yogan, est-ce que tu as reconnu ce bruit?
Alors, je pense que c'est une session d'équarrissage où on est en train d'équarrir des bois avec des haches.
Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est équarrir, est-ce que tu peux nous expliquer?
Équarrir, c'est l'action de rendre une bille de bois, du coup, qui est ronde, cylindrique, en lui donner la forme carrée, en poutre, voilà, qu'elle soit carrée. Du coup, on va dans un... Dans un cylindre, non, arrêtez, non. Dans un cylindre,
il est très déconcentré.
On va inscrire un carré et on va créer ce carré avec des haches, quoi. Du coup.
Ouais. Donc là, imaginons, on est dans la forêt. Comment on fait déjà pour choisir un arbre?
Ça dépend déjà de la pièce de charpente qu'on veut faire. Si c'est une pièce droite, une pièce courbe, un lien, un poteau, un arbalétrier, un entrée, tout ça. Donc il y a des pièces qu'il faut qu'elles soient absolument droites pour accueillir les tuiles par exemple ou un plancher. Il y en a d'autres qui peuvent être toutes courbes parce qu'il y a très peu d'assemblage dessus. Voilà.
Et alors on choisit quel type d'essence?
Alors nous on a plutôt tendance à travailler en châtaignier, en chêne. Voilà, en châtaignier et chêne.
Ok, alors donc là on coupe l'arbre. Voilà. Et puis, on fait des premiers tracés.
Bah, on coupe l'arbre, on le débite, on n'écarrie pas trop en forêt. Ça se fait un peu, mais c'est quand même... ça, c'est rare. Donc, on le rapatrie sur une aire d'écarissage, du coup, une aire assez plate, avec des chantiers pour poser cette bille, pour la caler.
Les chantiers, c'est deux bouts de bois qui
oui,
sont
Oui, voilà, c'est des
croix.
Bouts de bois qui soutiennent... c'est comme des tréteaux, en fait, quoi.
Et donc on pose le tronc, voilà. Et là on commence donc à faire de chaque côté du tronc...
Un tracé, où on essaye de tracer la pièce capable qu'on va pouvoir mettre dans cette bille. Après on relie les deux faces, les deux extrémités de cette bille, et on commence avec des haches à faire des entailles. Et à faire après les entailles, on éclate les entailles et on blanchit ces faces.
Thomas, si tu veux rajouter des choses...
Non, juste blanchir, ça veut dire
Blanchir, ça veut dire faire la finition, en fait. Avec la première hache, on va faire du dégrossi, et le blanchir, ça veut dire... Ouais, c'est qu'on fait une face assez propre.
En fait, quand il dit en taille, on coupe le fil du bois tous les 20-30 cm, de manière après à ce qu'on... Lorsqu'on revient dans le sens du fil pour fendre et détacher les parties les plus importantes du bois de la grume, elle suivent le tracé qu'on a effectué avant. Donc on coupe le fil et après on vient refendre et ensuite on vient blanchir pour, comme
faire
disait Yogan, faire
une
finition propre et suffisamment droite pour pouvoir accueillir les tracés des assemblages.
Et alors, tu parlais tout à l'heure de pièces courbes. Mais on voit quand même rarement des pièces courbes dans les... Si, dans les forêts,
dans
on en voit souvent.
Par exemple, dans les bateaux, on en voit beaucoup.
On en voit beaucoup, ouais.
Donc, voilà, il y en a.
Ça existe.
Mais dans une charpente...
Ça existe, c'est vrai que quand on voit un toit de l'extérieur, on voit quelque chose d'assez plan.
Enfin, voilà, mais c'est de l'intérieur où il y a certaines pièces qu'on peut utiliser des pièces courbes, justement, parce qu'il y a juste un point d'appui, c'est des pièces de triangulation. Du coup, on s'en fout qu'elles soient droites, ça ne sert à rien. Où c'est qu'il y a des pièces courbes
Des pièces où, par exemple, il peut y avoir un seul appui. Au milieu de la pièce, par exemple, on peut utiliser la courbe pour aller chercher l'appui. Je pense à un arbalétrier, comme tu disais tout à l'heure.
Ça panne,
fonctionne. Mais je crois que ce qui est intéressant sur les pièces courbes, c'est de se dire qu'en fait, surtout dans la charpente paysanne à l'ancienne, ils se démerdaient avec les bois qu'ils avaient. Et donc, si les bois étaient tordus, ils se débrouillaient pour qu'en fait, mécaniquement, ça marche. Et du coup, de cet héritage qui nous est laissé, aujourd'hui, ce que j'ai l'impression qu'on trouve tous un peu cool ici, c'est à la fois le style que ça donne, mais aussi le fait qu'on puisse valoriser des bois qui partiraient au chauffage et qui, dans le monde de la charpente aujourd'hui, a pas grand-chose à foutre en charpente, à part chez des petits gars qui font la charpente de bois de vin comme nous, je crois.
On a l'exemple de l'atelier où on a sorti des gros troncs, des gros arbres de la forêt. et que finalement on pouvait pas passer dans les scieries parce qu'elles étaient trop tordues, alors que c'était les 5 plus gros chênes de la forêt aux alentours, quoi. Ça veut
donc
dire
l'atelier
que
c'est le bâtiment qui est juste derrière nous,
voilà.
Donc
on a dû s'adapter avec ces bois pour éviter de les gaspiller, et du coup on a suivi le fil du bois et on avait des pièces soit un peu on voit pas les gestes, mais on a l'exemple d'une pièce, on pensait qu'il faisait la bonne taille. Une fois qu'on l'a fait tomber à terre en le mesurant, on s'est rendu compte qu'il y avait une fourche au bout et que la pièce était trop courte pour les circuits classiques. Donc on a préféré du coup équarrir cette fourche et l'intégrer à la charpente plutôt que de chercher un autre arbre, quoi. Et c'est hyper esthétique.
Et du coup, voilà. ça doit pas être facile quand même d'avoir des références sur des bois tordus comme ça, et puis que vous écarissez la hache, c'est pas complètement...
Alors on parle de pièces courbes, mais en fait elles sont droites sur deux faces. Sachant que sur une pièce, il y a quatre faces en général. Enfin, il y a toujours quatre faces. Il y a quasiment toujours quatre faces.
Elles sont droites sur un plan. Elles sont droites sur un plan et courbes sur un autre. Donc voilà. On arrive toujours. L'idée, c'est d'avoir toujours suffisamment de références pour faire des tracés cohérents. Voilà.
Donc c'est ça. Ça nous amène aux étapes suivantes de tracés. On a donc équarri des bois et là, on veut commencer à les assembler. Qu'est-ce qu'on fait?
Alors d'abord, on aura fait les dessins au bureau, enfin ou sur l'ordinateur, mais c'est assez rare ici. On sort pas trop les ordinateurs pour faire les dessins de charpente, crayon à la gomme, et on aura fait ce dessin au 20e.
Avant d'abattre les arbres, quand même.
Souvent avant d'abattre les arbres. Puis la suite, c'est de faire l'épure à l'échelle 1 au sol dans l'atelier. Donc il nous faut une grande aire assez lisse.
Qu'est-ce que c'est une épure?
L'épure, c'est le dessin de la charpente à l'échelle 1. Donc, si la charpente fait 20 mètres de long, il faut avoir 20 mètres de long dans l'atelier, quoi. Ça peut se faire en atelier. Pour l'atelier, ici, on n'avait pas d'atelier, vu qu'on était en train de construire l'atelier. Donc, on l'a fait dans le champ. On a réussi en mettant des contreplaqués à toutes les jonctions, des bouts de ficelle et tout ça, quoi. Donc, c'est encore possible de le faire autrement, mais c'est tellement... C'est beaucoup plus logique de le faire sur une dalle en béton bien lisse, c'est assez agréable, quoi. Donc, une fois qu'on a tracé l'épure, on va poser nos bois, on va empiler nos bois les uns sur les autres sur cette épure, en faisant coïncider...
C'est une étape cruciale, Yogan. Tu n'auras pas ton CAP, là.
Ah non, mince.
Mais c'est comme le code, au bout d'un moment, on n'y arrive plus.
Lignage.
On ligne les bois, ouais. On crée des références orthonormées, en fait, orthogonales, mais un plan vertical horizontal sur chaque pièce, et parce que vu qu'elles sont équarrées à la hache, même quand elles sont sciées, faut souvent le faire, parce que le bois, une fois qu'il est, même sur le banc de scie, on a l'impression que c'est tout droit, mais une fois qu'on a libéré les fibres, une fois qu'on a scié, le bois, il va libérer des tensions, et du coup si on scie une poutre de 6 mètres en 15-15, on peut avoir un flash, donc le bois aura pris une courbe de plusieurs centimètres, ça peut arriver. Donc faut recréer des axes qui vont servir de référence.
Aussi.
Il peut avoir twisté, il peut avoir une rotation, enfin, il y a plein de déformations possibles. Et plus on attend, et plus il va se déformer, parce qu'il va sécher, et du coup, en séchant, ça va libérer de nouvelles tensions. Et donc, avant de mettre sur ligne, enfin, sur l'épure, du coup, les bois, faut recréer des références. Et ça s'appelle le lignage, et c'est une étape hyper cruciale aussi, quoi. Et qu'il n'y a pas besoin de faire avec des bois corroyés qu'on achète aujourd'hui dans le commerce.
Et donc, concrètement, ça consiste en quoi? J'ai pas bien compris...
Alors,
Le lignage.
Bon, si c'est trop compliqué.
Non, c'est pas très compliqué. En fait, en bout de chaque pièce, donc au bout de la pièce, sur le bout. Je sais pas, il n'y a pas l'image, mais voilà, faut imaginer le bout, comme le cul, la tête, le bout. On dessine une croix verticale, horizontale.
Par les quatre arêtes.
Qui passe par. Au début, oui, d'accord, très bien. Par les quatre arêtes, une diagonale. Okay. Et ensuite, à partir de ça, donc, on déligne un centre. Mais c'est théorique. Enfin, on crée un centre dans la pièce. Et après, à partir de ce centre, on trace une horizontale, une verticale. Et on va relier sur chaque face. Et en fait, comme ça, on a du mal à voir, mais concrètement, même sur une pièce qui a été sciée droit, si on fait ça, on se rend compte que les lignes ne passeront pas au centre des pièces, parce que les pièces ne seront pas droites, tout bêtement. Et donc, on recrée des références.
Un plan, en fait.
On recrée des plans.
Comme si on mettait une feuille très fine au milieu de la pièce. Quoi.
Horizontale et verticale. Parce qu'après, c'est horizontale et verticale parce que dans la plupart du temps, quand on fait un bâtiment carré, quand on regarde le bâtiment d'un côté et puis de l'autre, on a bougé de 90 degrés. Donc on se sert de ce truc horizon et aplomb qui sont élémentaires et toujours justes. En plus, c'est très facile à calculer. Quoi. Après, quand on fait des bâtiments où il y a 5 côtés ou 6 côtés, c'est une autre paire de manches. Mais pour un truc simple comme ça.
Et donc, en charpente, vous laissez des traces sur le bois à l'écarissage, vous laissez des traces au sol avec l'épure, en lignant aussi les bois, et vous laissez d'autres traces sur les bois.
Tu connais quelque chose, toi, non?
Est-ce que déjà en forêt, est-ce qu'il n'y a pas déjà les traces qu'on laisse en forêt? Si tu pars par là, tu vois, il y a les traces du bûcheronnage. Il y a les traces du bûcheronnage, par exemple. On peut très bien lire une souche en forêt quand se baladant. Si la souche n'a pas été recoupée après bûcheronnage, on voit aussi la trace et le style du bûcheron. Éventuellement, les conneries qu'il a faites à l'abattage, le petit tronçon pas très juste, machin. C'est déjà des traces qui sont là et qu'on voit pendant longtemps. Et après, évidemment, les traces de lignage dont parlait Rémi là, sur les bois, souvent, nous, on les laisse. La plupart du temps on les laisse déjà parce qu'on en a besoin pour le levage, ce qu'on appelle la plumée qui est une partie du lignage des bois, les marquages, parce que chaque pièce étant unique, en fait chaque pièce est marquée et elle a sa place dans la charpente, et ces pièces et le marquage, traditionnellement on le grave dans le bois, que ce soit avec différents types d'outils, mais on le grave dans le bois, ce qui fait qu'on a vraiment 500 ans après il y a encore, on le retrouve sur des
1000 ans,
même 10 000 ans après.
Donc, c'est quoi ce marquage? C'est quoi ce marquage? C'est un code, c'est une écriture,
c'est carrément un code, c'est le plan de montage, en fait, hein. Si tu vois, c'est sur IKEA, elle s'appelle Svugrit et elle a le numéro 47, sur nous elle s'appelle franc ou contre-marque ou pas de doigt, mais c'est des marquages
langue de vipère,
c'est des marquages assez anciens qui étaient très diversifiés, qui ont été rendus un peu homogènes, je crois, à partir du 17e, 17-18e, il y a eu une homogénéité un peu dans les marquages de charpente, mais ça reste des marquages anciens comme ça qu'on n'est toujours pas d'accord sur certains marquages.
Nous ne faisons pas les mêmes marquages.
Ça appartient aux charpentiers aussi de s'approprier le marquage. L'idée, c'est d'avoir un plan de levage pour savoir quand tu vas mettre debout ton bâtiment, pour pouvoir retrouver toutes tes pièces, les mettre debout et qu'elles aient tous... un nom, quoi.
Et que ce soit cohérent et que tes copains ils puissent comprendre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Moussa.
Normalement, un plan de marquage, si tu donnes un plan de marquage à quelqu'un et les bouts de bois, un charpentier lambda, il doit pouvoir se débrouiller. Voilà. Et dans l'histoire, on dit même que certains charpentiers qui avaient peur de pas avoir le chantier jusqu'au levage faisaient des petites tricheries dans le marquage de manière à être sûr que le bâtiment soit levable que par eux, quoi. Donc c'est quand même une étape importante.
Et comment ça se transmet, justement? Comment ça s'est transmis de charpentier en charpentier, ce langage, ces codes de marquage?
Franchement, j'en ai aucune idée, mais je pense que juste en regardant les charpentes, le plan de marquage est cohérent, et juste en regardant ce qui a été fait, on apprend déjà de ça, j'imagine. Après, c'est quand même une transmission assez orale avec une charpente qui se pratique quasiment toujours avec un sachant, en apprenant au minimum. Donc j'imagine, je sais pas vous les gars ce que vous en pensez, mais la
transmission orale, ouais. Les stagiaires, tout ça, le CAP.
Ouais, mais après, tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a tous appris à peu près le même marquage et on fait pas le même marquage. Enfin,
tu parles des marquages des sablières, attention, si on rentre dans le détail, ça va commencer à devenir compliqué.
Non, mais on invente des trucs aussi.
Ouais, mais il y a une cohérence quand même, il y a une grille, quoi.
Ça dépend.
Il y a une grille. Ouais, plus ou moins.
Oui, je pense qu'on s'en sortirait. Et puis il y a quand même. Et puis voilà, donc pour revenir au marquage, il y a un truc qui est chouette sur le marquage, c'est que chaque charpentier a son style, a sa façon de faire, et du coup, il y a une partie de son identité qui est dans le marquage, que ce soit par l'importance qu'il y met à faire quelque chose de joli ou pas, que ce soit par la forme de son marquage, la longueur du marquage, etc. Il y a vraiment quelque chose qui est propre à chacun. Je crois que nous, chacun, si on reprend des traces et qu'on se pose un peu la question, on devrait savoir qui a fait le marquage assez facilement. Ouais.
Et il y a un outil dont on n'a pas parlé, mais qui me semble assez important pour tracer, c'est le fil à plomb. Je crois que c'est une spécificité aussi de la charpente traditionnelle. Je ne sais pas si, Emma, toi, tu as déjà utilisé un fil à plomb.
Un outil que l'on ne trouve pas dans le commerce, qu'on est obligé de fabriquer.
C'est exactement la question qu'il me fallait. Parce que dans parmi les étapes de charpente, celle-là, ça s'appelle le piquage. Et donc, c'est remonter les points d'assemblage qui sont tracés sur les épures, sur les bois. Et du coup, vu que c'est des bois qui sont courbes et pas droits, et on est obligé d'utiliser le fil à plomb pour compenser les dévers que peuvent avoir
Les dévers, c'est les creux.
Ouais. Et donc, c'est parmi ces
c'est
étapes,
pour recréer
c'est vraiment...
C'est un plan, c'est ça.
C'est ça. Et recréer un plan, et il faut que tout finisse de niveau et droit. Et ce n'est pas le cas au départ, donc il faut réussir à compenser. Et c'est là que le fil à plomb nous aide, parce que lui, il est juste tout le temps. Et sauf que du coup, c'est une technique qui est assez particulière, que j'ai vraiment beaucoup de mal à intégrer. C'est pour ça que les gars rigolent, parce que j'ai déjà bossé avec chacun d'entre eux. Et ils ont tous essayé de m'apprendre d'une manière différente cette technique. Et ça prend du temps pour des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude ou qui sont pas naturellement, n'ont pas la vue en 2D, 3D, et de comprendre qu'en fait, ça va être dans un sens puis dans l'autre. Ça prend vraiment beaucoup de temps, mais c'est très chouette et surtout c'est très satisfaisant quand ça finit d'être taillé et qu'on assemble et qu'on voit qu'en fait des trucs qui n'allaient pas du tout ensemble finissent par être sur la même trajectoire. Enfin, c'est vraiment chouette.
Oui, parce que donc l'objectif final, c'est donc de tracer des traits sur les différents bois qu'on va tailler ensuite pour les assembler. Et les bois ensemble... forme une ferme. Donc est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce dernier processus d'assemblage ?
Il y a quand même deux trois trucs avant.
On était à l'épure.
On en était à l'épure. on parle du piquage, qui est la façon de tracer les assemblages. Donc avec un plomb à piquer, parce que le fil à plomb, souvent on fait l'amalgame avec le fil à plomb du maçon. C'est deux outils qui sont totalement différents, même si ils sont assez proches, mais c'est quand même assez différent. Et ensuite, une fois qu'on a fait, on a tracé les emplacements des assemblages, on va dessiner les assemblages et on va quand même d'abord les tailler avant de fabriquer quoi que ce soit.
Faut les rembarrer.
Donc voilà, il faut les tracer et les tailler. Donc découper des petits bouts de bois et ensuite on assemble tout pour essayer, pour voir si tout a été fait correctement, si on s'est pas planté ni dans la conception ni dans la fabrication ni dans le lignage.
On essaye tous les assemblages.
Ça s'appelle une mise à blanc.
Mais du coup, la ferme, c'est une partie de la charpente, c'est pas la charpente totale. À la ferme, les faîtages, les sablières, enfin, c'est... Voilà, la ferme est juste une partie de ça.
La ferme, c'est l'espèce de triangle que vous avez tous chez vous, là.
Ce qui fait la forme du toit.
Presque tout ce qui fait la forme grossière du toit, c'est ça qu'on appelle une ferme.
Et peut-être pour conclure cette discussion, Thomas, mais peut-être les autres aussi, tu parlais tout à l'heure de cette émotion, en fait, que tu as de regarder ces traces. Tu nous parlais de ça tout à l'heure.
Ouais, moi, ce que je trouve fort dans cette charpente-là, au-delà du fait qu'elle s'insère complètement dans la logique écologique d'aujourd'hui pour valoriser du bois qui partirait au chauffage, essayer de construire quelque chose qui soit durable avec un regard sur la forêt qui est lui aussi durable, il y a le fait qu'on construit pour très longtemps et qu'on déborde des bâtiments de gens qui étaient dans la même démarche que nous, pour des raisons sûrement différentes bien sûr, mais dans la même démarche que nous. Ouais, ça me touche parce qu'on peut retrouver on voit les traces d'outils parce que c'était des charpentes qui étaient faites à la main, etc., qui ont des durées de vie absolument hallucinantes. On parle beaucoup de Notre-Dame. Ça a tous tenu une toiture en plomb pendant 800 ans. Enfin, c'est quand même assez délirant, quoi. Et là-dedans, on retrouve les marquages qui ont été faits par les charpentiers avec leur style. Parfois, on retrouve une petite signature. On retrouve une petite erreur qui a été corrigée. On retrouve ces choses-là. Et moi, je trouve ça hyper émouvant de me dire que déjà, on est dans la continuité de quelque chose qui a fait ses preuves et qui est fort. De se dire qu'on respecte aussi ce savoir-faire-là. Ouais, toutes ces choses-là, ces gestes qui peuvent paraître un petit peu anodins aujourd'hui et qui, moi, me paraissent encore plus puissants justement aujourd'hui avec les enjeux qui sont les nôtres, quoi.
Et est-ce que pour. J'ai une dernière question. Est-ce que toi, Emma, ou vous avez un souvenir de chantier qui t'a marqué?
J'en ai deux, je dirais que j'en ai deux. Si j'en ai fait le premier que j'ai fait en arrivant, c'était celui avec Thomas, où c'était mon premier levage. Surtout, j'ai fait des chantiers de charpente, j'en avais déjà assisté un peu, mais là, c'était du départ jusqu'à la fin. Donc, il y avait quand même le levage, donc le truc assez impressionnant de sur quoi tu bosses depuis des semaines. Tu le vois élevé dans les airs par une grue, etc. Et ensuite, il y a la couverture et maintenant des gens qui y vivent, c'est quand même assez incroyable. Et puis ici, j'ai fait plusieurs chantiers. Là, on bosse sur un chantier avec Rémi aussi. C'est encore une autre manière de travailler sur d'autres choses. Et c'est vraiment c'est des souvenirs. À chaque fois, c'est des premières fois. Là, on a levé à la chèvre. Donc à la chèvre, c'est une technique pareille, ancienne. Donc c'est sans grue, sans manitou, sans rien. C'est que à la main avec des cordes, des systèmes qui sont aussi utilisés dans les bateaux pour les voiles. Et donc tout est nouveau à chaque fois, donc c'est vraiment chouette.
Merci.
Merci beaucoup.